9h23, nos chefs sont avec nous ce matin, évidemment, surtout que le long week-end s'amorce demain avec le congé de la fête des Patriotes. Parlons barbecue. Dany Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Jean-Philippe Cyr, bonjour.
Bonjour.
Alors, deux approches. Et peut-être avant de parler de recettes, là, comment on prépare le feu? Quel type de barbecue on devrait avoir? Comment on joue avec ça? Là?
Nous ne sommes pas tous égaux devant la machine. Hein? Déjà, faire le choix de son barbecue, c'est un enjeu. C'est sûr que si vous avez pris le barbecue à 98$ en spécial dans un magasin de ferronnerie, ça se comportera pas de la même façon que le barbecue de votre beau-frère fatigant qui coûte 2000$. Puis qui est fait avec des briquettes de l'espace, puis qui est capable de faire la crémation en même temps. C'est pas la même chose.
Ce qui est important dans le barbecue, c'est la grille. Moi, oui. J'ai un barbecue de camping. J'ai pas payé cher, mais j'ai pris celui-là qui était le plus lourd avec une grosse grille en fonte. Parce que ce qui fait le barbecue, c'est la réaction de Maillard. C'est l'effet que la grille, elle vient tellement chaude. Tu mets quelque chose là-dessus, puis ça strie, puis ça caramélise les sucres. Puis c'est ça qui est bon. Si t'as une petite grille cheap, puis t'as payé un barbecue bien cher, c'est pas meilleur.
Si ta grille ressemble à une roue de bicycle, ça, c'est pas bon. C'est rien que des petits bâtonnets qui marqueront pas. Un autre enjeu qui est intéressant, c'est les BTU. British Thermal Units. C'est surtout dans le monde du gaz qu'on parle de ça. Fait quand vous avez un barbecue au gaz, assurez-vous d'avoir de la puissance parce que vous pouvez avoir les plus belles rainures du monde. Ça peut être large comme une roue de truck, là, mais s'il n'y a pas de feu en dessous, vous n'aurez pas la puissance nécessaire pour que la chaleur
se rende. C'est quoi la puissance idéale, selon toi?
Ben, tu sais, moi, quand je suis dans mon resto, admettons, j'ai 5000 BTU par rainure, par ligne de gaz. Fait que, tu sais, mon grill au resto à 3 pitons, ben, j'en ai 5000. Puis après ça, ben, vous, quand vous êtes sur le commerce, essayez de spotter celui qui en a le plus pour un ratio de prix. Un barbecue aussi, ce qui arrive avec les rainures, c'est qu'il y a un trou. Fait qu'il y a de l'espace. Fait que la chaleur sort. Fait que c'est d'autant plus important d'avoir de quoi qui est puissant.
Mm-hmm. Charbon, le gaz.
Deux approches. Les deux sont bonnes. S'il y a assez de puissance avec le gaz, c'est intéressant. Le charbon va apporter de la saveur, mais ça demande une expertise. Souvenons-nous de nos parents qui vidaient les briquettes. Mm-hmm. Puis là, tu pouvais pas commencer à griller avant que les briquettes soient blanches, sinon ça allait goûter à boucan.
Ça prend une demi-heure, ça.
Ah, c'est long.
C'est long, hein?
C'est pas précis.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gaz, ça apporte pas un goût particulier à la nourriture.
Non, c'est la grille.
C'est la grille qui fait le goût. Puis si tu veux un goût particulier, il faut que tu utilises du charbon. Ou que tu fasses fumer tes affaires.
Et toi, tu fais quoi?
Moi, je prends un petit barbecue bien ordinaire. J'ai juste besoin de strier mes affaires, moi. Tu sais, quand je travaillais dans un restaurant, j'étais grillardin, moi, dans une autre vie. Puis on faisait du steak, on le faisait marquer d'avance. Des fois, on le finissait au four. Juste de marquer ton affaire, tu mets... Tu sais, un barbecue, ça goûte le barbecue parce que c'est strié comme ça. Que tu mets du poulet, que tu mets du steak, que tu mets du tofu, ça va goûter le barbecue parce que c'est strié. C'est la grille qui est tellement chaude que ça caramélise, littéralement.
Si tu faisais cuire ton steak au complet noir comme les lignes que tu fais dessus, il serait pas bon.
Mm-hmm.
Il goûterait le brûlé. Mais là, puisque c'est équilibré, puis le fait que entre les barres, ben la saveur se prend, puis tout ça, ben c'est là que ça devient intéressant. Fait que je trouve que ça, c'est une belle distinction à faire dans le monde du barbecue. Après ça, un barbecue, c'est pas juste une affaire pour griller des choses. Il y a un couvercle par-dessus, il y a de la température. Fait que ça veut dire qu'on peut refermer le couvercle puis s'en servir comme un four. Donc, là, il y a un univers de cuisine extérieure qui commence à prendre forme.
Il y a la cuisson directe, indirecte.
Tout à fait. Fait que cuisson directe, ça veut dire que tu mets tous tes feux dans le tape, là, à fond les ballons, puis là, ben on grille, puis on garde le couvercle ouvert, puis on se met des gants, puis des pinces qui sont longues pour pas brûler nos poêles de main. Mais quand on fait une cuisson indirecte, ça veut dire qu'on allume très fort d'un côté, puis on ferme de l'autre. Comme ça, on peut fermer le couvercle, puis quand tu mets tes choses du côté où le gaz n'est pas allumé, ben il y a une convection qui se fait. Ça veut dire que la chaleur se promène à l'intérieur de ton four qui est ton barbecue fermé. Puis là, tu peux faire plein de cuissons lentes. Moi, j'ai fait de la pâtisserie ce matin. Fait que vous avez un bel univers devant vous qu'on peut vous proposer.
Il y a une chose, si je peux ajouter.
Oui, oui.
Il faut faire attention, c'est l'huile. Parce qu'un barbecue, si on met quelque chose qui est bien gras, très graisseux, le feu va sauter dans l'aliment. Puis là, ça, c'est plus mangeable. Il faut vraiment faire attention. S'il y a une marinade, par exemple, pas trop mettre d'huile dans la marinade. Mm-hmm. Juste huiler les grilles. Au pire, on huile la grille avant de mettre notre morceau, là, notre aliment. Là.
Gratter la grille aussi, c'est bien important. Il ne faut pas que vous ayez des souvenirs du repas précédent quand vous vous apprêtez à griller un steak. On fait chauffer comme il faut. On prend notre brosse à grille. On la brosse bien comme il faut. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un torchon, mettre de l'huile végétale dessus puis frotter ma grille avec mon torchon, avec ma pince, évidemment, pour pas se brûler. Là, mais vous allez voir, ça va y faire un enduit puis ça va éviter de coller.
OK. Une dernière question plus technique. Là, encore une fois, j'ai souvent vu des débats entre les gens, par exemple pour des grillades, là. On ferme le couvercle, on laisse ouvert. Qu'est-ce qui est mieux?
Ben, ça dépend, toi, Jean-Philippe, comment
ben,
tu vois ça?
Ben, ça dépend. Si on fait cuire quelque chose qui demande une cuisson plus longue, plus lente, on va fermer le couvercle. Mais si c'est juste pour griller quelque chose, bang, bang. Le tofu, comme je le fais sur le barbecue, il n'y a pas besoin de cuire. Il est déjà cuit, le tofu. Là. Ça arrive dans un emballage, c'est cuit. J'ai juste besoin de le marquer puis de le réchauffer. Ça fait que je vais laisser le couvercle ouvert. Je vais strier ça, puis ça vient finir. Là.
Si on avait un ribsteak de 2 pouces, admettons, là, un os et demi, là, un solide. Là,
un tomahawk, là, mettons.
Un tomahawk ou un cowboy, là. Ben, moi, ce que je ferais, c'est de laisser tempérer 1 heure sur le comptoir avant, tu sais, avec mes épices à steak autour, si on aime ça. J'aime bien huiler mes viandes auparavant aussi, comme ça. Ben, quand tu huiles tes viandes, il y a comme une chaleur de plus qui se fait. Parce que tu saisis, puis après ça, ça fige autour. C'est comme si tu mettais une patate avec de l'huile autour dans le four ou pas d'huile, la patate, elle va ratatiner. Un steak, il faut que ce soit huilé, il faut que ce soit bien assaisonné. Je marquerai les 2 premiers côtés comme il faut, puis après ça, je le virerai de bord, puis je le laisserai finir avec une chaleur indirecte dans mon barbecue pour me rendre à la fin. Puis, ayez pas peur de vous acheter des petits thermomètres aussi. Ça a l'air nono, là. Mais tu sais, un steak de 2 pouces, ça coûte cher. Puis tu sais, tu veux pas mettre un steak de 60$, admettons, le manger médium bien puis être triste, là, tu sais. Une bonne température interne pour un steak, c'est 55 degrés Celsius.
Parfait. Ben Jean-Philippe, on y va de oui. Propositions pour commencer.
Pourquoi faire un steak quand on peut faire un bon gros champignon, un steak de Portobello, n'est-ce pas?
Voilà, je pourrais penser à quelques raisons. Là.
Pourquoi manger du steak quand on peut manger des champignons spongieux? Non, sérieusement, là, moi aussi au début, je me disais, Colin, j'allais au restaurant, je voyais ça, un burger de Portobello. C'est pas un burger, ça, c'est quoi cette affaire-là? J'ai pris ça une fois aux États-Unis, j'ai dit, mais voyons donc. Ça a une espèce de texture de steak. Les Portobello, hein, on voit ça dans les magasins. Là. C'est les gros, les plus gros champignons. Là.
De la forme aussi. Là.
Ben oui. Ça fait que tu fais mariner ça un petit peu, tu mets des épices à steak, tu mets ça sur le barbecue. C'est surprenant. Surprenant comment ça se rapproche de la viande. C'est viandeux, un champignon.
OK. Puis la cuisson, c'est pas très long, pas trop? Ben,
moins longtemps possible. Tu sais, tu pourras pas l'avoir saignant de toute façon. Portobello. Fait que c'est bien moins dangereux. Là.
OK. Donc, tu parlais de tofu tantôt, là.
Oui, une petite brochette de tofu.
OK, comment
on fait mariner ça avec un petit peu de sauce soya, un petit peu de sirop d'érable. On met ça sur le barbecue. Puis ça goûte le barbecue. C'est là qu'on se rend compte que le barbecue, là, t'es mieux d'avoir une bonne brochette de tofu sur le barbecue que d'avoir un steak bouilli, mettons.
Ouais, ou du poulet sec.
Ou du poulet sec.
La marinade, c'est la clé. Puis Jean-Philippe a une marotte, là, qui est le soya puis la sauce, la sauce soya puis le sirop d'érable, là, avec le grill du feu, là, ça marche à tout coup. Ouais. Un bout de tofu,
c'est
un bout de poulet.
C'est une bonne marotte.
C'est une marotte. On salue Carl Marotte, par ailleurs.
Tout le monde a ça. On sait plus quoi faire avec notre sirop d'érable puis notre sauce soya. Ah, j'ai aussi apporté des petits pains nanes, là. Des pains nanes, ça, c'est un pain indien. Ça, si les gens ont de la visite, là, c'est incroyable. Tu fais ça d'avance un petit peu, c'est comme faire un pain. Je mets un petit peu de crème de soya là-dedans. Puis quand la visite arrive, tu roules ça, tu mets ça 1 minute et demie de chaque côté sur le barbecue. Ça rôtit, ça fait comme une espèce de belle croûte. On ressemble à des croûtes à
c'est
pizza,
très beau,
ça fait
exemple.
Des bulles.
Vous allez le voir sur Facebook, là, vous allez regarder l'image.
Ben oui.
Mais la cuisine traditionnelle indienne, c'est comme quoi? C'est une espèce de four.
C'est un four à tandoor. C'est comme imaginez un baril en feu. Tu sais, on imagine du monde qui font du rap là, autour d'un baril en feu. Là. Du charbon dans le fond. Les gens vont cuire la viande sur des brochettes, puis sur les parois, puisque c'est un four à argile, ben là, on va étirer le pain nan comme Jean-Philippe a fait, puis ils vont le coller sur les côtés. Puis avec la chaleur, ça va coller. Puis une fois qu'il est prêt, ben il se décolle tout seul. Puis après ça, ils vont servir le tandoor là-dedans.
Il faut que ce soit une chaleur incroyable. Là.
Oh,
c'est 1000 degrés. Là. C'est ça qui fait que ton pain il va faire des bulles. Puis il va cuire instantanément. C'est que c'est extrêmement chaud. C'est ça que le barbecue apporte. C'est une chaleur. Tu peux monter ça à 1000 degrés en barbecue.
OK. De ton côté, qu'est-ce que tu as préparé?
Ben, moi, j'aime beaucoup le barbecue, comme Jean-Philippe décrit. Je trouve ça le fun. C'est notre lieu commun avec le barbecue. Mais je trouve que dans mon défi de cuisinier, j'aime l'idée de cuisiner dehors. Puis on a tous à la maison des équipements qui peuvent nous permettre de faire d'autres choses que juste de la grillade. Parce que de la grillade, c'est le fun, mais tu sais, l'été, c'est long. Puis je pense que dès qu'il fait beau, il faut qu'on sorte nos affaires dehors puis qu'on en profite parce qu'on a quand même 10 mois d'hiver, tu sais. J'ai fait une compote de pommes en papillote qui va accompagner un pain de maïs, fait qu'un bon vieux cornbread à la Southern. Là, au sud des États-Unis, on mange des biscuits puis on mange du pain de maïs qui est fait très rapidement. Imaginez un petit muffin. Puis après ça, ben, j'ai une recette de poulet aux patates puis au citron. On va commencer avec le cornbread. Le cornbread, ben, c'est comme si on faisait presque un appareil à crêpes dans le fond. Il y a de la semoule de maïs, de la farine, de la poudre à pâte, du beurre, du babeurre. Le babeurre, c'est un liquide qui est fait après la transformation du beurre.
Okay.
C'est comme, imaginez du lait presque bleu qui est très surette. La raison pour laquelle on utilise ça, ben, c'est pour la coloration dans la pâte, le petit goût que ça donne, puis ça fait activer la poudre à pâte, puis ça fait que ça gonfle. Une fois bien beurré, on met ça dans des moules à muffins, puis là, ben, c'est là qu'on embarque sa chaleur indirecte. Tout à l'heure, j'avais commencé à vous raconter l'histoire de, tu mets un côté de barbecue qui est bien, bien fort, puis un autre que tu laisses tranquille, comme ça, il n'y a pas de feu en dessous, puis ça brûle pas. On monte la chaleur à 375-400, évidemment, c'est pas super précis, mais ça nous donne une idée, puis ça, tu sais, puisque vous êtes à côté avec probablement un breuvage frais, ben, vous avez le temps de le checker, puis de regarder ce qui se passe. Pendant que vous êtes en train de contempler l'idée de manger du cornbread chaud dehors que vous avez fait de vos blancs chemins, on fait une papillote de pommes. Les pommes en été, là, c'est pas le fruit le plus tendance, mais à l'année au Québec, on a des pommes, puis là, c'est l'heure de manger nos pommes à cuire. Fait que j'ai pris un bon vieux sac de Macintosh qui m'a coûté à peu près 2$. J'ai pris 10 pommes pelées, je les ai coupées en 4, j'ai mis du beurre, j'ai mis du miel. Au Québec en ce moment, puis surtout dans les zones qui sont urbaines, sur la plupart des toits d'un building qui se tient bien, il y a une ruche, puis il y a du miel. Fait que je pense que c'est le temps de commencer à en parler dans notre cuisine. La papillote, c'est, imaginez que vous faites une sandwich avec du papier d'aluminium, fait que vous mettez papier d'aluminium dans le fond, vos pommes, du beurre, du miel, du sel, puis après ça, ben vous refermez chaque côté en repliant. Fait que c'est un peu de bricolage, mais ça fonctionne. Puis ça, cette papillote, ben vous la mettez du côté intense du grill.
Ah oui?
Parce qu'on veut qu'il y ait une caramélisation qui se fasse. Évidemment, tout ça, ça aurait pu se faire dans un chaudron, mais puisqu'on est à l'extérieur, puis on joue avec les règles du camping, ça marche. Donc, j'ai une compote de pommes qui est bien savoureuse avec mon pain de maïs soupe. Ça, vous mettez des copeaux de vieux cheddar. Là. Vous savez, le cheddar vieilli, ça peut faire un bel item de brunch. C'est pratiquement un dessert. Ça peut faire une entrée tripante aussi où on n'a pas vraiment envie de prendre une assiette là, puis on picosse. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ma deuxième recette, c'est du poulet avec des patates sur le grill. Quand on parlait de faire attention à la marinade un peu plus tôt, là, quand vous pensez à faire griller du poulet avec la peau, là, tout le monde a une catastrophe dans la tête. Mm-hmm. Là. Ça sent le cadavre brûlé, il y a du feu partout. Puis là, tu te dis, pourquoi les Portugais sont capables, eux autres? J'ai trouvé une astuce qui fonctionne.
Vas-y.
Encore une fois, chaleur indirecte, vous mettez votre poêle, une bonne poêle de fonte, là, du côté indirect, on met des patates coupées en quartier, deux beaux citrons coupés en moitié, de l'huile d'olive, du thym, puis un poulet en crapaudine. Un poulet en crapaudine, on commence à en voir en épicerie. Imaginez un crapaud qui nage, là. Vous voyez comment il est bien écartillé, là? Ben, c'est un poulet qui est ouvert par le dos. Fait qu'il est attaché ensemble. Il y a un côté, il y a la peau. Puis de l'autre côté, avec évidemment les poitrines sur le dessus, les cuisses, tout ça. Puis les os en dessous. Fait que ça, vous posez votre poulet sur vos patates. On met le four à peu près à 375, aussi connu sous le nom de votre barbecue. Vous attendez une belle demi-heure, le temps que tout le monde fasse connaissance correctement. Pendant cette demi-heure-là, le gras va fondre sur vos patates. À la fin, ça va être l'heure de prendre ce poulet puis de le transférer sur le grill qui est chaud pour le marquer, puis vous n'aurez pas de feu. Une autre affaire aussi qui est le fun, si vous avez la chance de connaître ce produit-là, c'est une plancha. Les planchas, on les voit souvent en Espagne. Là. C'est une grande plaque de fonte qu'on peut avoir à l'extérieur puis qui peut faire partie. Soit vous mettez une plaque de fonte sur votre barbecue puis vous faites cuire à la plaque, puis ça, c'est le fun pour les brunchs puis tout ça. Ou vous pouvez tout simplement acheter un appareil qui correspond à tout ça. Là. Une plancha, il y en a plusieurs sur le marché puis c'est chouette. Fait que ça vous fait un beau poulet aux patates qui est le fun.
Deux questions rapides en terminant. Il y a un auditeur qui voulait savoir comment faire cuire un homard.
Et ça, c'est le temps. Hein? C'est le temps du homard, ça s'en vient.
C'est sûr.
Un homard, là, on peut pas juste prendre un homard et dire « Viens ici, garçon, tu t'en vas sur le grill. » Ça marchera pas. Parce qu'un homard, c'est un exosquelette. Fait que c'est, imaginez un œuf. Là. Il y a une enveloppe autour, puis en dedans, c'est juteux, mou, puis il n'y a pas de structure. Le meilleur truc pour faire du homard sur le grill, vous faites une eau qui est bien bouillante et salée. Vous plongez votre homard 3 minutes de temps. Puis après ça, ben vous le sortez, vous le laissez refroidir. Puis là, ben vous le décortiquez, puis vous le réchauffez sur le grill, bien badigeonné. Vous cassez vos pinces, puis tout ça, puis vous allez avoir quelque chose qui se tient. Sinon, ben il va devenir raide puis sec.
OK. Qu'est-ce que tu penses de Beyond Meat?
Ouais, j'adore. J'en ai mangé avant.
C'est bon.
C'est comme une boulette là, qui a été faite aux États-Unis, faite à base de protéines de pois. Puis je mets au défi les gens de voir la différence. Là. C'est incroyable. C'est comme du bœuf haché. C'est comme une boulette de burger. Moi, ça m'a vraiment... J'avais déjà goûté aux États-Unis l'an passé, puis là, c'est arrivé dans les supermarchés. Si vous cherchez-en pas, j'ai tout acheté.
Merci. On va retrouver les recettes, évidemment, sur la page web. On a capté ça pour la vidéo sur Facebook. Messieurs les chefs, merci beaucoup de vos précieux conseils.
Merci.
Bon
et, oui, à très bientôt. Je donne tout de suite le sujet de tribune téléphonique. On va parler des chiens. Québec présente ses règlements. Oui, il faut faire de la prévention. Oui, il faut essayer de convaincre les gens de garder un chien en laisse. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les chiens qui représentent un potentiel d'agressivité et quand ils sont fâchés puis qu'ils mordent, bien, ça fait plus de dommages que d'autres types de chiens. Les municipalités qui sont un peu découragées, les vétérinaires à qui on va demander d'évaluer si le chien est dangereux ou pas, de rapporter les blessures. Bref, vous pensez quoi des règlements déposés par Québec hier? Assez sévère, trop sévère, pas assez, 514-790-9850, 514-790-9850. On parle des chiens, pas que des pitbulls, on parle des chiens et du règlement.